La plaque gendarmerie, Gilles teste le parcours de la poursuite. Une fois, 10 fois, 20 fois, en expliquant au technicien la trajectoire qu'il va prendre. Patience et minutie, et prudence aussi, comme il leur dit. Je n'ai qu'une peau. Et puis, il va préparer ses cartons. Ah, ses cartons. Ben, c'est son truc à lui. Habituellement, les cascadeurs retombent sur des matelas de caoutchouc ou des caisses de sciure. Lui, il a compris que c'est 1000 fois plus efficace d'utiliser des caisses en carton. Empilées, ce sont de parfaits matelas d'air à plusieurs étages et légers à transporter. On peut y faire n'importe quelle chute. Pas de limite, explique-t-il. Je peux tomber de 20 mètres dessus sans me blesser. Il explique qu'il a calculé qu'un corps en chute libre atteint sa vitesse limite d'environ 200 km par heure en 12 secondes. Il suffit donc de placer assez d'épaisseur de carton. Elles vont céder l'une après l'autre en faisant amortisseur. Mais le plus grand risque de la séquence qu'on va tourner, c'est que Gilles ne va pas tomber d'un point fixe, mais d'une moto lancée à pleine vitesse. Donc, il lui faut quitter sa moto sans se blesser et atterrir exactement à l'endroit prévu, là où se trouveront les caméras. Gilles se prépare. On camoufle avec du verre et des feuillages les fameux cartons. Gilles se protège. Pièces de cuir, de mousse, de caoutchouc, sangles, ceinture de sécurité, genouillère, coudière, protège-tibia, sparadrap, surtout sur les articulations principales. Il faut penser à tout. Et c'est ce qu'il fait. Comme par exemple, tester la glissance de la tache d'huile. Les caméras sont en place. L'ambiance est tendue. Chacun sur le tournage perçoit qu'il va se passer quelque chose. Avec un gars comme Gilles, on sait que ce ne sera pas du cinéma. Ce dernier enfourche sa moto, grimpe en haut de la route et démarre de son point de départ. Silence partout, moteur. Les caméras ronronnent. Et puis soudain, Gilles surgit du dernier lacet. Mais tout le monde a compris. Il roule beaucoup trop vite. Il va se tuer. Après le dernier virage, il fonce sur la tache d'huile sans lâcher les gaz. Beaucoup plus vite que lors des nombreuses répétitions. Et chacun pense qu'il va se tuer. La roue arrière dérape. La moto fonce en biais. Le corps de Gilles monte en l'air et tourbillonne, puis va retomber derrière le talus, dans le ravin. Silence complet sur le plateau. Chacun a entendu le fracas de la lourde chute et personne ne bouge. La moto est là, écrasée, disloquée, fumante. Et Gilles ? Gilles, le casque en bataille et avec un grand sourire, sort de ses cartons. Il rassure, tout va bien. Et lance à l'équipe médusée, faut recommencer, j'ai bousillé la mitraillette que je portais à mon dos. Allez, on la double, amenez-moi la deuxième moto, on doit faire beaucoup mieux. Ça, c'est du de la mare pur jus. Toutefois, le soir de ce mémorable tournage, il souffre d'un terrible mal de dos. Sa colonne vertébrale a encaissé un sacré choc. Il a une grande marque bleue dans le dos. Ce ne sera pas la seule séquelle de sa carrière. De film en film, malgré ses prudences, il y aura une double fracture du tibia, une oreille arrachée, un bras cassé dans une scène de bagarre, pas mal de brûlures, 7 à 8 chutes en tournoi dans la même journée et bien sûr, quelques sérieux ennuis à la colonne vertébrale. Oh, c'est peu finalement sur une carrière. Mais ces désagréments ne doivent pas nous faire oublier que le soir d'un tournage éprouvant, après avoir plié de la tôle ou bousillé des carrosseries ou sauté en l'air en moto, Gilles attaque un steak qui doit peser au moins 500 grammes. Ben oui, protéines oblige. Il n'y a pas que monter en l'air en moto que l'on demande à Gilles Delamarre. Il peut aussi venir du ciel. À partir de 1956, il se taille une solide réputation de parachutiste exemplaire. Et ce, en partenariat avec sa compagne, la célèbre mannequin parachutiste Colette Duval. Cette nouvelle corde à son arc va lui permettre d'être engagé pour le film Le jour le plus long, qui sortira en 1962. Sa fonction ? Stunt driver, comme disent les Américains, c'est-à-dire chef des effets spéciaux. Pour reconstituer le débarquement de Normandie, Le tournage est supervisé par l'Américain Daryl Zanuck, qui a engagé des vedettes du box-office international. Grosse production donc, et lourde responsabilité pour Gilles. Scène de bataille, corps à corps, explosion, passage de barbelé. Le tournage de cette super production va offrir à Gilles l'opportunité de diriger une autre scène d'anthologie, le fameux largage sur Sainte-Mère-Église, avec la légendaire scène du parachutiste resté accroché à la tour du clocher du village. En réalité, un mannequin en mousse. Et c'est à Gilles Delamarre que Zanuck confie toute la responsabilité de cette séquence. Pour ce faire, Gilles a engagé une équipe d'une vingtaine de cascadeurs parachutistes chevronnés. Il s'agit surtout, comme dans la plupart des scènes parachutées du film, d'arriver sur le but prévu au centimètre près, là où le parachutiste est attendu, par les caméras. Tomber sur la margelle d'un puits, sur tel arbre ou même dans un poulailler avec arme et bagages. Ensuite, il convient de contrecarrer la vitesse du vent et régler celle de la chute. Il est prévu que les cascadeurs sautent d'hélicoptère. Le jour, l'équipe répète les sauts et tout est OK. Mais comme le fait d'armes a eu lieu la nuit, eh bien on tourne la nuit. Et là, c'est le cauchemar. Car bien entendu, quand on tourne de nuit, on a besoin de multiples projecteurs. Et dès qu'ils sont branchés, plus rien ne va. Les sauts sont déviés des points de chute. Mais que se passe-t-il? Les projos dégagent tellement de chaleur que la densité de l'air est faussée et les parachutes sont chassés par cette nappe d'air chaud. Un véritable casse-tête et des retards de tournage. Et la production qui s'impatiente et qui s'énerve. Mais pour Gilles, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Mais il n'en trouve pas. Quelques jours plus tard, il passe par hasard près d'un chantier de construction où travaillent des grutiers. Mais génial, se dit-il. Il fait louer ses grues de 20 mètres de haut et c'est du sommet de ses engins que vont sauter les cascadeurs. Pas facile. Sauter d'une vingtaine de mètres. Mais personne ne verra le trucage. Gilles et son équipe ont ainsi battu le record du monde du saut le plus court, et cela pour le jour le plus long. De tournage en tournage, notre cascadeur se taille une réputation, même à l'étranger. Chaque film est une nouvelle occasion de parfaire son savoir-faire, mais aussi de se forger une éthique professionnelle. On pourrait même dire une philosophie et une maturité. Pour lui, ce n'est pas un métier qu'on apprend à l'école. Ce n'est même pas un métier. Et pas si dangereux. Il ne faut pas être courageux. Il suffit d'avoir beaucoup d'humilité. L'exploit ne suffit pas. C'est pour cette raison qu'il assimilera très vite toute la technique du cinéma. Le cascadeur doit être aussi comédien. Non pas faire une cascade, mais la jouer. Il doit jouer le personnage qu'il endosse. Il donne souvent cet exemple. Recevoir une balle, ça a l'air facile. Eh bien, rien n'est plus compliqué pour que ce soit parfait. Même chose quand on encaisse un coup de poing dans une bagarre. De même, dans les films d'Indiens, si un type attaque avec un tomahawk en poussant des cris de guerre, il doit exprimer une suite de sentiments. Haine, puis surprise quand on lui tire dessus, stupeur, douleur, effroi, mort. Le cascadeur doit être un bon comédien. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au cours de sa carrière cinématographique, Gilles enchaînera de petits rôles pour apprendre à jouer. En tout, plus de 40 petits rôles, de 1949 à 1965. De Fanfan la Tulipe aux Tribulations d'un Chinois en Chine avec Belmondo, de L'air de Paris de Marcel Carné au Mouton à cinq pattes d'Henri Verneuil. Il affirmera de même qu'on ne fait pas une bagarre à point nu, mais qu'on la joue. Ça paraît si facile aux spectateurs. Il suffit de faire semblant de cogner et de recevoir. Mais il n'en est rien. Et Gilles est bien placé pour l'affirmer. Lui qui a joué pas mal de bagarres avec l'acteur Eddie Constantine. C'est pas une cascade simple. Le coup doit passer le plus près possible. Il doit être suggéré plus que vu. Et c'est là qu'est toute la difficulté. Pour les coups au foie, au ventre et les coups de pied, le geste doit être arrêté pile sur l'obstacle. mais il doit être envoyé avec un maximum de tonus. Il a très vite découvert d'ailleurs qu'il est plus difficile de recevoir que de donner un coup de poing. C'est après qu'arrive les trucages. Les bouteilles que l'on brise sur la tête sont en sucre, en plâtre ou en cire. En sucre aussi sont souvent les vitres, à travers lesquelles il doit passer, ou bien elles sont très minces. Au montage, ce sera l'ingénieur du son qui ajoutera sa note personnelle pour ponctuer les coups de poing. Des quartiers de bœuf ou des escalopes que l'on frappe sur une table, dans une chambre froide, ce qui donne un écho plus que réaliste. Des images familières sont encore imprimées dans vos regards de cinéphiles. J'en suis sûr. Les poursuites infernales de Fantomas, c'est lui. La fuite grand guignolesque avec les citrouilles sur les soldats allemands dans la grande vadrouille, c'est encore lui. Dans Le Corneau, la deux chevaux de Bourville percutée par le vindicatif de Funès et qui se disloque. Toujours lui. La conduite délirante de la religieuse déjantée dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Lui aussi. Sa cascade plus que dangereuse sur l'avion qui vole cockpit vers le bas dans L'Homme de Rio avec Belmondo, c'est encore lui. Gilles Delamarre a toujours voulu estimer le risque et calculer le danger de son activité. Pas dangereux, disait-il, le métier de cascadeur. Pas si sûr. En 1966, Christian Jacques l'engage pour le tournage de son polar Le Saint prend l'affût. Voilà notre Gilles dans la peau du fameux Simon Templar, joué par son ami Jean Marais. Le 31 mai, on tourne sur une portion de l'autoroute du Nord en construction. Simple cascade. Le réglage d'un tête-à-queue. Une petite scène sans importance. C'est son ami Rémi Julienne qui était prévu, mais il ne se sent pas en bonne forme. Gilles examine le revêtement de l'autoroute. Il n'est pas idéal. Trop neuf, il ne facilite pas le dérapage de la caravelle Renault. De plus, la voiture est décapotée. Ah, il n'aime pas ça. Et elle n'a pas été préparée, de même que les pneumatiques. Non, Gilles n'est pas à son aise. Il demande qu'on répande des gravillons pour faciliter la glissade de la voiture. Ils sont blancs. Ça ne sera pas raccord avec les prises de vue précédentes. Tant pis. Gentlemen, action, lance Gilles. Il tourne jusqu'à 6 fois la scène. La 7e est lancée vers 17h50. Claquette de clap, grand coup de frein à main, à 70 km par heure. La voiture part en travers, tonneau complet qui éjecte les deux autres passagers cascadeurs. Gilles, lui, sous le choc, est projeté et sa tête va se coincer entre le sol de la Renault et le montant du pare-brise. L'auto retombe sur ses 4 roues. La caméra a tourné toute la scène et c'est sous ce regard sans émoi que Gilles et son beau sourire trouvent la mort à 41 ans, pris par surprise, après tant de risques et d'exploits.